Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12h.
Agnès Bonfillon, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous cette semaine. Agnès Bonfillon, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. À la une, fusionner la carte vitale et la carte d'identité. C'est l'une des mesures phares effectivement proposées par le gouvernement afin de lutter contre la fraude sociale. Nous prendrons le temps d'expliquer tout cela dans la deuxième demi-heure d'RTL Midi avec Martial You. La possibilité d'examiner la proposition de loi du groupe Liot qui vise à abroger la retraite à 64 ans, c'est oui pour Éric Coquerel, le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Cela dit, il reste du chemin, le texte n'est pas encore dans l'hémicycle. Moscou visé par des drones ce matin, une attaque rarissime qui n'aurait fait que des dégâts matériels. À suivre aussi pour que les souvenirs ne riment plus avec le verbe souffrir. Une méthode a fait ses preuves. L'EMDR, grâce à des mouvements oculaires, il est possible de mieux digérer des événements traumatisants. Les balles de Roland-Garros sont nulles. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Benoît Paire. Il reconnaît que ce n'est pas à cause d'elle qu'il a été éliminé hier, mais il pousse quand même un coup de gueule. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les balles de tennis sans jamais oser le demander, c'est avec notre spécialiste Isabelle Langer à midi 10. Isabelle Langer que nous retrouvons évidemment toutes les demi-heures pour faire un point précis sur les matchs en cours. Justement, la question du jour sur RTL.fr concerne Roland-Garros. Verra-t-on, selon vous, des Français en deuxième semaine ?
Condition que les balles soient différentes, chacun l'aura bien compris. RTL, toujours plus proche de vous, dans moins de 10 minutes, RTL Midi, un jour chez vous en France.
Aujourd'hui, on part à Romainville, en Seine-Saint-Denis. Heureux soient les écoliers de cette école qui propose une cantine qu'avec du fait maison. Enfin, juste avant 13h LVT Midi, vous saurez tout sur la star de l'été, j'ai nommé le maillot de bain.
Autant de sujets, évidemment, dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs. La parole.
Avant cela, la météo, c'est avec vous, Peggy Broche. Bonjour.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
En un mot, ce qui nous attend cet après-midi ?
Ça tourne à l'orage encore au sud.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Ce 30 mai 2023 restera une date importante dans l'histoire de l'industrie française. Inauguration de la première Gigafactory ce matin à Douvrin, près de Lens. Dans cette usine ACC, vont être fabriquées des batteries pour voitures électriques, histoire que l'Hexagone ne soit plus dépendant du géant chinois. 250 salariés vont mettre en route cette chaîne de production. En 2030, il devrait être 8 fois plus. Et pour RTL, vous avez pu rencontrer quelques-uns de ces pionniers, Franck Hanson.
Oui, des pionniers nordistes qui se lancent dans un chantier titanesque sous le premier bloc de cette usine ACC qui fait l'équivalent de 2 tours Eiffel en longueur. Ces premiers salariés sont un peu timides au milieu des 700 invités et officiels à l'heure des discours. Pour Florian Delporte, qui travaillait chez un équipementier des Nains Beaumont, c'était une opportunité à saisir.
C'est un nouveau challenge, l'envie de se lancer à 29 ans. C'est une vraie fierté de faire partie de cette aventure, d'être un pionnier des gigafactories, des batteries françaises. C'est le parfait mélange entre le monde de la chimie et le monde automobile.
Ces nouvelles recrues reçoivent une formation de plusieurs mois près d'Angoulême. Guillaume Siban a quitté l'usine Stellantis en face, appelé à disparaître. Rien à voir ici avec les chaînes automobiles habituelles.
J'ai traversé la rue il y a 3 semaines avec la fin des moteurs thermiques. On nous a proposé en fait l'avenir des voitures électriques. Et ce qui est nouveau, c'est l'environnement. Effectivement, les salles sèches, ça n'a rien à voir avec un brouillard d'huile d'un atelier d'usinage. L'air est par exemple déshumidifié. Il y a des surchaussures, il y a des combinaisons spéciales pour pas que la moindre trace de poussière vienne s'intégrer dans la batterie.
Les premières batteries déjà vendues devraient sortir cet été. Le recrutement se poursuit et des nouvelles formations industrielles sont aussi proposées aux jeunes du Béthunois.
Le reportage de Franck Hanson, le correspondant de RTL dans le Nord. L'international de rugby Mohamed Awas, jugé en comparution immédiate cet après-midi à Montpellier. Il est accusé de violence conjugale.
RTL Midi.
Coup d'envoi aujourd'hui d'une opération, d'une campagne de sensibilisation contre les violences faites aux femmes.
Ces violences sexuelles et sexistes dans l'espace public, jusqu'à la fin de l'été, 5 millions de flyers doivent être distribués par les forces de l'ordre. Et Julie Brault, bonjour.
Bonjour.
Vous avez assisté à un premier tractage ce matin à la gare de Persan dans le Val-d'Oise.
Oui, dès 7h30 du matin, le préfet du Val-d'Oise et une dizaine de gendarmes distribuent près d'un millier de flyers aux usagers.
Bonjour, tu as déjà ton flyer ?
On fait une petite campagne pour renforcer la sécurité des femmes dans l'espace public.
hein, parce que parfois
des flyers sont... sur lesquels on peut lire des conseils à adopter si on est victime ou témoin d'une agression, comme faire du bruit ou alerter les forces de l'ordre, des gestes simples qui auraient pu aider Leslie, qui s'est fait agresser à plusieurs reprises sans que personne intervienne.
J'ai subi des attouchements sexuels dans le métro, et il y a 6 ans de ça, il y a un garçon dont j'étais pas intéressée, m'a forcé à l'embrasser sur la bouche et de faire des choses dont je n'avais pas envie.
Mais ici, pour beaucoup d'usagers, ce ne sont pas des flyers qui vont régler le problème. Selon Christine, les forces de l'ordre devraient surtout être plus présentes sur le terrain.
Qu'ils se montrent au moins dans les rames de train ou de métro, je pense que ce serait mieux. Sinon, si on les voit pas, il se passe tout ce qu'on veut. Bah oui, dès qu'on voit quelqu'un en uniforme, bon. Puis les femmes sont un petit peu plus, se sentent un petit peu plus protégées.
Alors ici, les gendarmes vont continuer leur distribution tout l'été pour tenter au moins de sensibiliser, d'alerter sur le sujet. Car dans le Val d'Oise, les violences intrafamiliales ont augmenté de plus de 13% cette année. Et beaucoup d'entre elles ont lieu dans l'espace public.
Le reportage de Julie Brault pour RTL. Des dégâts mineurs, aucune victime, mais une attaque quasi inédite ce matin à Moscou. Une attaque de drone qui a visé donc la capitale russe. Nous y revenons dans le journal de midi et demi.
RTL, Roland Garros 2023.
Roland Garros, c'est toutes les demi-heures en direct sur RTL. Nous retrouvons Isabelle Langer. Bonjour Isabelle.
Bonjour Agnès.
Une journée avec beaucoup, beaucoup de Français, 12 oui. Très exactement.
Et ils sont déjà 3 sur les cours. Sur le cours Simone Mathieu, Diane Paris mène 6-2, 3 jeux à 1 face à l'Ukrainienne Kalinina. Sur le cours 14, Fiona Ferro malheureusement est dominée par la Suédoise Peterson, 6-2, 4-0. Et sur le cours numéro 7, Giovanni Pecci-Péricard, le Français, mène 6-5 face à l'Argentin Gennaro Alberto Olivieri. À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Isabelle, on vous retrouve dans le premier focus avec Henri Lecomte pour parler de la qualité des balles. C'est quand même important en tennis, Pascal. La météo, c'est avec vous Peggy Broche. Comme hier, un risque orageux dans le sud.
Oui, c'est vrai que la situation est assez bloquée. On a du très beau temps quasiment partout, avec toujours ce petit vent de nord-est, hein, un petit vent frais sur le nord. Et dans le sud, ça tourne à l'orage. Les nuages arrivent au fil des heures avec des averses orageuses, alors essentiellement sur le relief. Mais on peut en avoir également sur le sud de la Gironde. La vallée du Rhône et le pourtour méditerranéen sera épargné. Tout ça sous des températures qui sont encore très agréables. 16 à Cherbourg jusqu'à 29 à Montpellier cet après-midi, 21 à Brest, 24 à Paris, 25 à Tarbes et Orléans, 26 degrés à Besançon, 27 à Lyon comme à Agen et 28 à Perpignan.
Merci beaucoup Peggy.
RTL Midi,
un jour chez vous.
Chaque jour, l'info au plus près de vous et des plats comme à la maison, mais des plats dans une cantine.
Oui, à Romainville, en Seine-Saint-Denis, on va voir tout ça avec vous, Arthur Pereira. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous nous emmenez effectivement ce midi dans les cuisines d'une cantine scolaire, une cantine un peu spéciale. Depuis janvier, 290 000 euros ont été investis pour offrir aux élèves de l'école Maryse Bastier des repas 100% bio et 100% maison.
Absolument fini les plats préparés, les plats congelés, lavés, épluchés, hachés. Les légumes viennent d'Île-de-France. Tout ce qu'on retrouve dans l'assiette est cuisiné sur place. Alors j'enfile mes surchaussures, ma blouse transparente et ma charlotte. Direction les fourneaux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef, c'est ça ?
Oui, oui, Samuel Moka.
Là, on a cette petite assiette juste devant nous. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ?
Des pommes de terre guanailles cuites au four avec des champignons brisés, pleurotes et shiitake avec du bœuf. Puis en basse température.
Ça donne envie. En plus, ça a été fait ici, c'est ça ?
Fait maison, du bio, local. La cuisine, c'est un art. Faire des taillages à la main, faire un peu de tout. J'ai des frissons en disant ça, mais c'est un bonheur.
Finalement, les enfants, ils sont comme au restaurant ?
Ils se croient même au restaurant avec maman et papa. Un 3 étoiles, voilà.
Le luxe, Arthur. Et quand disent les enfants, on entendait les enfants derrière vous.
Eh bien, les 300 assiettes parlent d'elles-mêmes, il ne reste quasiment rien. Aïda, Emma et Léon ne font qu'une bouchée de leur fromage blanc.
Avant, il n'y avait vraiment pas d'assaisonnement, c'était pas très très bon. Je trouve que c'est beaucoup moins sec. Maintenant, ça se voit que c'est frais, c'est fait maison et tout. Il y a plus de goût, c'est beaucoup plus varié.
Et là, à côté de Léon, je retrouve du coup la diététicienne de l'école. Je peux avoir votre prénom, madame ?
Isabelle Bretonnier.
On le voit devant nous, les assiettes, elles sont vides. Ça n'arrivait pas avant.
Avant, on était à entre 95 et 120 grammes.
grammes de gaspillage alimentaire par enfant et nous sommes chutés à 35-45 grammes.
Donc on a divisé par 3 le gaspillage.
Tout à fait.
Donc c'est 100% local, 100% bio et 100% validé par les enfants.
Et avec beaucoup d'amour.
Et cerise sur le gâteau, la mairie économise 1 euro à chaque repas, elle qui souhaite étendre ce dispositif à 2 établissements supplémentaires d'ici à 2026.
Arthur Pereira, Romainville, en Seine-Saint-Denis pour RTL.
Et vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Et si vous écoutez l'antenne depuis ce matin, vous avez entendu Benoît Paire qui a dit les balles de tennis sont nulles. Alors on va en parler avec Isabelle Langer, on va en parler également avec Henri Lecomte, je crois.
S'il vous plaît, notre consultant.
S'il vous plaît, je ne sais pas si Henri Lecomte d'ailleurs a joué avec ses balles, s'il a pu les tester ces dernières heures, il nous le dira dans une seconde. A tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL Midi. Pascal Pro et Agnès Bonfillon.
On joue avec des balles qui grossissent au bout de 2 secondes. Les balles neuves, elles durent pendant même pas un jeu. C'est ridicule. Les balles du tournoi sont vraiment nulles. Si on veut avoir du beau spectacle, c'est pas avec ces balles-là qu'il faut jouer au tennis.
Le coup de gueule de Benoît Paire hier à Roland-Garros, il dit bien qu'il n'a pas perdu à cause de ses balles, mais qu'elles sont de mauvaise qualité. Alors ce n'est pas la première fois que cela arrive. En janvier à l'Open d'Australie, Nadal lui aussi trouvait que les conditions de jeu n'étaient pas maximales. De quoi parle-t-on exactement? Nous retrouvons Isabelle Langer, mais aussi notre consultant Henri Lecomte en direct de Roland-Garros. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Alors si on dit ça qu'une balle de tennis, dites-nous, il n'y a que du caoutchouc là-dedans?
Alors, je vais vous raconter. D'abord, dans le passé, les balles de tennis, elles étaient faites de poils d'animaux, de laine ou encore de cuir. Aujourd'hui, elles sont en feutre. Le noyau de la balle est constitué de 2 hémisphères en caoutchouc qui sont collés ensemble. Il est creux à l'intérieur et rempli d'un gaz spécial ou d'air normal. Ça dépend.
Alors, si on écoute Benoît Paire, il dit que cette balle favoriserait ou défavoriserait plutôt les attaquants, que les aces ne passent pas, qu'on ne peut pas jouer vite et que ça joue d'abord sur le physique. Alors, est-ce qu'Henri Lecomte a pu tester ces balles et lui qui était un attaquant? Bonjour Henri, qu'en pensez-vous?
Bonjour. Eh ben moi j'en pense que oui, de toute façon une balle vive, même pour Rafael Nadal, ça aurait été beaucoup plus bénéfique pour son jeu. Il est vrai que pour un attaquant, si on peut avoir une balle assez rapide, c'est mieux, et que lorsque la balle est beaucoup plus lourde, on a du mal à...
Mais c'est vrai ce qu'il a dit Benoît Paire sur cette balle-là, et à ce moment-là, pourquoi est-ce que les balles ne sont pas au rendez-vous? C'est incompréhensible.
Alors, je vous explique d'abord une chose, Pascal. Traditionnellement, Roland-Garros, on utilisait des balles de marque française.
Absolument.
Babola ou Technifibre. Elles sont réputées, Henri, pour être performantes sur terre battue.
Hein. Absolument.
Au tournoi d'Aix-en-Provence, par exemple, dirigé par Arnaud Clément, il nous disait qu'il n'y a eu aucun problème avec les balles Technifibre. Mais c'est comme la télé, il y a des appels d'offres. Et il y a quelques années, eh bien, c'est Wilson, la marque américaine, qui a obtenu le marché. En coulisses, il se murmure aussi que la balle, actuellement, est moindre depuis le Covid. Qu'on fait des économies, du coup la matière première est de moins bonne qualité. Ça, vous le confirmez, Henri?
Ça, je le confirme, mais de toute façon, il est vrai que la compagnie, la marque Wilson n'est pas une marque pour jouer sur terre battue. On a toujours travaillé pour avoir une très très bonne balle pendant Roland-Garros. Moi, je me souviens qu'avec, par exemple, avec Yannick, quand on se préparait, on demandait des balles en amont pour pouvoir les tester et dire ce que l'on en pensait. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un appel d'offres, il est vrai que, bon, malheureusement, on va au celui qui est le plus offrant, mais on devrait aussi travailler par avoir.
Mais les joueurs, surtout, devraient être, me semble-t-il, on devrait être interrogés. Alors, c'est surtout ça, mais.
Ils ont la possibilité, hein. Bautista Agut a demandé des balles à Wilson avant le tournoi, ouais, pour pouvoir s'entraîner avec. Il dit lui-même que quand il est arrivé sur le tournoi, il trouve que les balles ne sont pas les mêmes qu'à l'entraînement qu'il a eu. On les change tous les 9 jeux, vous savez. Et bien là, visiblement, au bout de 2 jeux, elles sont super usées. Elles vont moins vite. On peut faire moins de spectacles, en fait, avec.
Bah, moins de spectacles, ça surtout favorise les joueurs de terre. Les marathoniens, les joueurs de terre battue qui restent très loin derrière. Donc. Mais oui, mais bon, Benoît, elle a quand même mené 2-7-0, 4-2. Voilà. Donc c'est vrai que les balles, c'est important, mais au bout d'un moment, on doit s'adapter. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut adapter son cordage, il faut avoir peut-être une tension un peu moins forte et pouvoir aussi s'adapter à la situation. Quoi.
Mais est-ce que Paire a raison? Est-ce qu'hier, objectivement, son jeu a été desservi par ses balles et le jeu de son adversaire a été favorisé par ses balles?
Alors, écoutez, moi, j'étais au bord du court. Oui. Je peux vous dire qu'il n'avançait pas, quoi. À part son service et son revers qui sont monstrueux, ça tenait que là-dessus, son jeu hier.
Son physique. Il n'était pas prêt physiquement, Benoît. Il aurait la possibilité de gagner beaucoup plus tôt. Malheureusement, bon, quand ça dure, quand physiquement on est pas au top, ça devient de plus en plus difficile. Et il est vrai que lui, il préfère des balles vives. Il a un bon service, un bon revers. Il peut jouer sur 2-3 frappes. Après, quand on fait l'échange, c'est plus du tout la même limonade. Hein.
Vous nous disiez qu'il y avait des raisons économiques hein, dans le choix des balles. Est-ce qu'il y a un risque qu'un jour, en finale de Roland Garros, par exemple, on se retrouve avec des superstars qui disent bah, désolé, nous, on ne joue pas avec ces balles-là.
Bah alors là, on serait bien embêtés. Mais c'est arrivé quelquefois dans certains tournois, notamment même ou en exhibition ou un tournoi, qu'on demande à changer de balle. Et pourquoi ? Parce que on n'est pas content et qu'il y a la défaillance quand on ouvre les balles. Parce qu'il arrive plusieurs fois qu'on peut ouvrir une boîte de balles et qu'il y a, par exemple, 3 ou 4 balles qui sont défaillantes. Et on en demande d'autres. Bon, c'est pas encore arrivé, mais j'espère pas qu'on va en arriver là. Ça serait dommage à Roland Garros. Hein. C'est pas une bonne image.
Un joli scandale.
Mais c'est vrai que c'est déjà un petit peu un scandale d'avoir une marque qui ne satisfait pas les joueurs ici à Roland-Garros.
Mais ça, c'est unanime. Vous avez le sentiment que tous les joueurs sont sur cette...
Dani Medvedev aussi s'est interrogé sur les balles. Il est quand même numéro 2 mondial.
Raphaël Nadal, on a parlé à l'Open d'Australie déjà. Ouais.
C'était pas les mêmes balles. Hein.
Non, mais c'est pas les mêmes. Mais d'accord, mais
parce que Wilson est aussi sur l'US Open. En fait, ils étendent leur marché.
Oui, mais Isabelle, lorsque déjà dans un tournoi du Grand Chelem en début d'année, on a déjà Raphaël Nadal qui est pas, c'est pas n'importe qui est toujours assez réglo, commence à dire que les balles sont défaillantes et qu'on arrive à Roland Garros, on retrouve le même problème. Donc je pense qu'il y a une remise en question de la part du partenaire.
Bon, et puis ces informations sont capitales pour les joueurs du dimanche que nous sommes, parce que
absolument.
C'est vrai que cet été, moi, si vous me dites que les S ne passent pas avec Wilson, moi, je vais peut-être changer de
balle. Non, mais il y a des marques françaises, Pascal, achetées françaises déjà.
Bien sûr.
Vous pouvez nous expliquer ce qu'est un S, comme vous dites?
Un service gagnant, pardon.
Alors là, c'est le B.A.B.A. Nous sommes avec Agnès Bonfillon. Alors le S, c'est E. Et Henri Lecomte en a fait quelques-uns contre Sampras dans son deuxième match face à Lyon de Coupe du Monde de Coupe Davis en 90. C'est lorsque le...
91 oh là là, Pascal
lorsque 91. Le joueur...
On est bien là, on est pas mal, on est au bon niveau.
Le joueur ne touche même pas la balle. Il ne touche pas la balle. Celui qui faisait beaucoup de S dans votre époque, c'était Roscoe Tanner également à
Wimbledon. Oui, il était un peu plus vieux, mais surtout Boris Becker. On a eu quand même un très bon cerveau. Et puis Pete Sampras, bien sûr.
Bien sûr. Oui.
Et Isabelle, j'en profite, on a une Française qui est en souffrance là actuellement ou pas ?
Oui, on a Fiona Ferro, notre Fiona Ferro qu'on aime beaucoup, qui est menée 6-2, 5-0 et balle de match pour la Suédoise Pettersson sur le court numéro 14.
Et puis il y avait une petite également polémique puisqu'on vous a ensemble hier. C'est que Caroline Garcia, le central était vide. Enfin, je ne sais pas si c'était sur le central d'ailleurs. Le
court
était
c'était
vide.
Sur le central, bien sûr.
Et donc ça fait réagir parce qu'Alcaraz, le central était plein au contraire. Et les gens se disent
Alcaraz était sur le Langlen, Pascal. Voilà. Alors, c'était Djokovic sur le central.
Où sont les spectateurs lorsqu'une Française joue ? Il y a une petite polémique, je l'ai vue sur les réseaux sociaux.
En tout cas, c'est terminé pour Fiona Ferro. Hein,
Ferro, c'est terminé. Hein, 6-2, 6-0.
Bon, c'est toujours un plaisir de vous avoir, Isabelle, pendant cette quinzaine. Et puis avec
Henri également.
Avec
Merci,
Henri,
Pascal.
Évidemment.
Pas m'oublier. Sinon, attention, si vous voulez qu'on joue ensemble et travailler votre race,
je vais vous dire, je me demandais, vous, aujourd'hui, vous allez avoir 60 ans le 4 juillet.
Oui.
Quand vous jouez un joueur de tennis, vous êtes à quel niveau aujourd'hui ? Un gosse, par exemple, de 15 ans qui est moins 15, vous le battez ou pas ?
Ah non, là, je ne gagne pas, là. Ça va un peu trop vite, là.
Et un gosse qui est zéro ?
Moins de zéro, oui, ça va encore, parce que je vais lui prendre la tête. Je vais jouer à l'ancienne.
Il va rentrer dans le cerveau.
Je vais jouer à l'ancienne, je vais rentrer dans le cerveau, je vais faire un chip, je vais faire une balle liftée, un truc.
Aujourd'hui, un zéro, vous le battez encore ? Je dis pour les amateurs de tennis, parce que c'est un excellent classement, zéro. Aujourd'hui, vous gagnez aisément ?
Oui, il faut que je m'entraîne un petit peu quand même. Pas aisément, non, Pascal, on exagère. Faut pas exagérer non plus. Bon. Moi, je m'entraîne pas tous les jours, mais disons que... Oui, bon, j'ai encore un bon bras.
Bah, j'imagine. Voilà. Hein, bon, merci en tout cas, Henri. Merci, merci Isabelle. Et puis, on se retrouve tout à l'heure, évidemment, entre 13h et 14h30. À tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Agnès Bonfillon. RTL Midi. Votre vie.
RTL Midi, votre vie effectivement, car l'info c'est aussi ce qui fait votre quotidien et aujourd'hui c'est passionnant.
Je vais vous demander de repasser dans votre tête
l'ensemble de ce qui s'est passé. Et vous vous arrêterez sur le détail qui reste pour vous le plus difficile.
Regardez. Comment aider notre mémoire à ranger les souvenirs les plus douloureux, non pas les effacer, mais les ranger dans un compartiment qui n'empêche pas, qui n'empêche plus d'avancer. On parle notamment du stress post-traumatique. De plus en plus de patients ont recours à l'EMDR, une méthode reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Avec nous pour en parler, Stéphanie Aurin-Pellissolo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, praticienne EMDR. Concrètement, alors c'est en acronyme en anglais. Hein.
C'est en anglais, je ne suis pas très douée en anglais, donc vous m'excuserez mon accent, c'est Eye Movement Desensitization and Retraitement. Donc c'est la désensibilisation et le retraitement par les mouvements oculaires des événements traumatiques.
Et donc comment on travaille sur ces mouvements oculaires ?
Eh bien, on va s'aider finalement de nos doigts pour guider le patient dans ses mouvements oculaires. Donc, on va mettre les doigts devant les yeux du patient. Et comme quand vous allez chez un ophtalmo ou un rééducateur, il y a un orthoptiste, il vous montre un bâton et une baguette pour rééduquer les muscles des yeux. Donc, nous, c'est un peu la même chose avec nos doigts. On va lui demander de suivre nos doigts de gauche à droite et on va alterner plusieurs fois ces mouvements-là. Alors, il n'y a pas que ça. Hein. On va inviter la personne à se souvenir des images qui sont en lien avec l'événement traumatique, les odeurs, les sons qui sont associés à ce souvenir traumatique, les images, les émotions qui sont associées, les pensées qui sont associées, et on va l'inviter, en même temps que de laisser revenir l'ensemble de ce souvenir, de suivre nos doigts.
Ça nettoie en quelque sorte ?
Alors, c'est quelque chose qui va nettoyer. Il y a plusieurs hypothèses. Les mouvements oculaires permettraient de reproduire ce qui se passe dans nos rêves. Vous savez qu'on a des mouvements oculaires rapides pendant nos rêves. Et on sait qu'on digère quand on rêve. Et on digère les événements de la journée grâce à ces rêves. Et donc, on reproduirait quelque chose de cet ordre-là avec les mouvements oculaires. Mais ce que l'on produit aussi, c'est... ça nous permet de recontextualiser le souvenir. C'est-à-dire que le problème, c'est que le souvenir, il est stocké à l'état pur. Si on prend la métaphore de l'ordinateur, dans un ordinateur, il y a une mémoire à long terme, il y a un disque dur. On a tous un disque dur avec nos souvenirs qui sont stockés dans ce disque dur. Les souvenirs sympas, pas sympas, les souvenirs neutres. Et quand on se souvient d'un souvenir difficile qui est stocké dans la mémoire à long terme, sur le disque dur, c'est pas sympa, mais ça va, c'est OK. Il n'y a plus de réactivité émotionnelle. Et il y a d'autres souvenirs, par contre, quand on s'en souvient, il y a des images qui sont associées, des odeurs, des bruits, des sons, des pensées négatives. Et ces souvenirs-là, en fait, sont stockés en mémoire de travail, sur la mémoire vive de l'ordinateur. Et à chaque fois qu'on ouvre un fichier dans l'instant présent, qui a des caractéristiques qui intéressent le virus, hop, le souvenir, dans son ensemble, va se réactiver.
Et le patient est conscient, il n'est pas sous hypnose, nous sommes d'accord. Alors, est-ce que c'est parce qu'il arrivera à formaliser précisément ce souvenir, de mettre des mots sur un souvenir qu'il n'avait peut-être pas aussi précisément identifié ? Est-ce que c'est parce qu'il le formalise qu'ensuite, grâce à votre technique, il pourra le ranger ?
Alors, c'est pas tellement ça. En fait, ce qu'on va faire, c'est dissocier la charge émotionnelle du souvenir. En fait, il est stocké avec la même charge émotionnelle que lorsqu'il a vécu le souvenir traumatique. Si on reprend les attentats ou même un accident de voiture, hein, on a un accident de voiture, on a la peur de mourir à ce moment-là. Le souvenir est stocké avec le « je vais mourir » et la peur qui est associée. Et donc, il a une alarme dans le cerveau, l'amygdale, qui est en permanence allumée. Donc, ce qu'on va faire grâce à ces mouvements, c'est calmer l'amygdale, calmer cette alarme, et c'est ce qui va permettre justement de dissocier le souvenir de l'émotion intense. Et c'est le fait d'avoir dissocié qui va permettre justement de stocker en mémoire à long terme.
C'est parce qu'on dissocie, quoi. Je pense que c'est assez clair en vous écoutant. Donc, le souvenir reste, mais plus l'émotion.
Voilà, tout à fait.
Beaucoup de victimes d'attentats sont traitées, notamment avec l'EMDR. On peut être, est-ce que l'on peut être traité pour des choses, entre guillemets, plus quotidiennes ? Je ne sais pas, je pense aux phobies, par exemple.
Oui, tout à fait. Et on peut retraiter des phobies. La phobie des araignées, on peut la traiter en EMDR.
Merci beaucoup.
Ah, c'est un sujet passionnant.
Stéphanie Aurin-Pellissolo, d'être venue. Vous êtes psychologue et
praticienne EMDR.
Vous avez peut-être écrit un livre d'ailleurs sur ce sujet ? Pas encore ?
Pas sur le sujet, mais j'ai écrit, il y a un livre, Étreindre votre douleur, éteindre votre souffrance. Thérapie basée sur la pleine conscience.
Eh bien, effectivement, pour ceux qui veulent en savoir davantage encore, ils peuvent aller consulter cet ouvrage. Il est 12h28, l'info revient dans une seconde.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 32-10.
50 centimes la minute. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL midi, il est 12h30.
RTL midi.
Le 12-30.
Pascal Pro et Agnès Bonfillon.
Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous, Agnès Bonfillon.
Dans une heure très exactement, le pilier du 15 de France, Mohamed Awas, sera jugé en comparution immédiate pour violence conjugale. Il a déjà un passé judiciaire. La proposition de loi qui vise à abroger la réforme des retraites sera-t-elle examinée à l'Assemblée nationale ? L'insoumis Éric Coquerel, le président de la Commission des Finances, donne son feu vert. Un maire ardéchois demande le classement en état de catastrophe naturelle de sa commune. Un violent orage de grêle s'est abattu hier sur Johannas. Vergers et potagers sont ravagés. Puis direction Roland-Garros, bien sûr, en fin de journal. Pas moins de 12 Français étaient engagés dans le tournoi aujourd'hui, puisque Fiona Ferra, c'est terminé. La question du jour, justement, sur RTL.fr. Roland-Garros, verra-t-on, selon vous, des Français en deuxième semaine? Et puis votre rendez-vous culture, je sais que vous l'attendez impatiemment, Pascal. Vous serez tout sur le maillot de bain.
On en parlera évidemment de tous ces sujets à partir de 13h dans Les Auditeurs ont la parole. Quel type de maillot de bain vous aimez? Une pièce, deux pièces? Je parle pour les jeunes femmes parce qu'a priori, les femmes d'ailleurs...
Vous ne mettez pas d'une pièce, vous.
J'ai l'image d'un coup, là.
A priori, c'est plutôt... Terrible. Mais parfois, là, dans les plages sur lesquelles je vais, parfois, il n'y a même pas besoin de maillot, on ne sait pas.
On ne veut pas savoir. Vous vous en parlerez tout à l'heure avec les auditeurs?
Bah évidemment, ça c'est un sujet essentiel, les maillots d'ailleurs, c'est formidable. Il y a une vraie mode des maillots.
La météo à la fin du journal, ce sera avec vous, Peggy Broche, déjà un indice?
Oui, il fait encore très beau, mais ça tourne toujours à l'orage dans le sud.
Jusqu'à 13h,
RTL midi.
En France, tous les jours, il y a des centaines de comparutions immédiates. Dans une heure, à Montpellier, c'est Mohamed Awas, pilier du 15 de France, qui va devoir répondre de violences conjugales. Âgé de 29 ans, ce joueur montpelliérain a déjà eu affaire à la justice et cela risque de peser lourd dans la balance cet après-midi. Bonjour Cindy Hubert.
Bonjour.
Vendredi, on le rappelle, il a été arrêté après avoir frappé son épouse en pleine rue. Devant témoins.
Oui, devant de nombreux témoins, même puisque la scène a eu lieu en plein jour devant un centre commercial. Et franchement, ce qu'il raconte fait froid dans le dos. Mohamed Awas aurait fait tomber sa femme par un coup de pied, puis il lui aurait porté un coup au visage avant de l'entraîner vers un parking. À ce moment-là, son épouse tremble, elle est en pleurs, mais elle finit par croiser le regard d'une jeune femme qui est là, à quelques mètres dans ce parking. La victime lui demande d'appeler la police sans aucun bruit, juste en bougeant les lèvres pour ne pas alerter son mari. Colosse de 123 kilos qui tente maintenant de la faire entrer de force dans sa voiture. On aurait dit un kidnapping, raconte la témoin. Il appuyait sur sa tête. Elle hurlait qu'elle n'arrivait plus à respirer. Des caméras de vidéosurveillance ont filmé ces quelques minutes. Les images devraient être projetées à l'audience cet après-midi. Dans une heure, Mohamed Awas sera amené par des agents pénitentiaires dans le box puisqu'il dort en prison depuis dimanche. Et il pourrait y rester, d'autant que l'international a déjà été jugé pour ce qu'il appelle des erreurs de jeunesse, des cambriolages et une bagarre ultra-violente en 2014.
Et ce qui est sidérant, Cindy, vous allez me dire si c'est la réalité, cette femme n'aurait pas porté plainte.
Elle n'a pas porté plainte et en réalité, c'est assez courant. Souvent, les personnes... En fait, c'est le père de ses deux enfants. Donc, elle dit, voilà, c'est le père de mes deux enfants, je ne veux pas porter plainte. Et parfois, les personnes ne viennent tout simplement pas à l'audience. On verra si elle sera là cet après-midi.
Merci beaucoup Cindy du service police-justice de RTL. Après la découverte du corps d'Iris, 23 ans, dans une rivière du Morbihan, samedi, une autopsie est pratiquée aujourd'hui pour déterminer les circonstances de la mort de la jeune femme.
RTL midi.
Sans surprise, Éric Coquerel, le député de la France Insoumise, donne son feu vert à l'examen de la proposition de loi d'abrogation de la retraite à 64 ans.
Oui, pour le président insoumis de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, il n'y a rien d'inconstitutionnel, contrairement à ce qu'avance la majorité présidentielle, Marie-Bénédicte Allaire.
Bah oui, parce que pour la majorité, la proposition de loi du groupe Liotte en rétablissant la retraite à 62 ans aggraverait les finances publiques. Elle est donc inconstitutionnelle, c'est incontestable pour le macroniste Jean-René Cazeneuve, rapporteur général du budget.
C'est absolument incroyable de vouloir changer les règles du jeu pendant le match. Donc si vous voulez, le président de la commission des finances, il doit faire respecter notre règlement et la Constitution. C'est un travail de sape, c'est un travail de sape qui est fait aujourd'hui par la NUPES contre nos institutions.
Mais pour Éric Coquerel, il n'y a pas lieu de déclencher l'article 40 qui empêche d'examiner un texte trop coûteux pour le budget de l'État. Et si la majorité l'accuse d'être de parti pris, réponse du président de la Commission des Finances.
C'est un geste partisan, c'est un geste politique pour écarter un texte, ce qu'elle a le loisir de ne pas faire. À aucun moment, cette majorité n'était dans l'obligation d'invoquer l'article 40 pour empêcher que le débat ait lieu.
La polémique va se poursuivre puisque l'examen de la proposition de loi commence demain en commission des affaires sociales et la majorité va tout faire pour essayer d'empêcher qu'elle soit votée dans l'hémicycle.
Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Inauguration ce matin de la première Gigafactory dans le Nord à Douvrin, près de Lens. Dans cette usine vont être fabriquées des batteries pour voitures électriques, histoire que l'Hexagone prenne un petit peu plus son indépendance par rapport à la Chine.
Des attaques de drones sur Moscou, c'est extrêmement rare.
Et pourtant, la capitale russe a été visée ce matin par plusieurs engins de ce type. Plusieurs bâtiments ont été touchés. Bonjour Félix Grasso.
Bonjour Agnès.
Vous êtes le correspondant de RTL à Moscou. Félix, le Kremlin accuse Kiev, qui dément. En sait-on un peu plus ce midi ?
Alors écoutez, pas vraiment, hein, pour la défense russe, eh bien c'est évidemment une attaque terroriste du régime de Kiev, après que plusieurs détonations ont retenti dans un quartier de la banlieue de Moscou tôt ce matin. Les fenêtres des derniers étages des bâtiments ont volé en éclats, il n'y a que des dégâts matériels et des blessés légers selon la mairie. Mais c'est la première fois qu'une offensive aussi large est lancée contre la capitale russe. Au total, une dizaine de drones ont été neutralisés dans le ciel de la région de Moscou, aux abords de la capitale. Reste une inconnue, le véritable objectif de cette attaque.
Moscou a renforcé sa sécurité ?
Alors, on peut l'imaginer, hein, mais ces informations, eh bien, restent très confidentielles, bien sûr. Des parlementaires ont néanmoins exhorté la population à ne pas diffuser sur les réseaux sociaux d'images des dispositifs de défense aérienne qui sont déployés dans et aux alentours de la capitale pour éviter de renseigner l'ennemi. Mais l'attaque de ce matin ne semble pas susciter d'alarme particulière. Hein, pour vous donner un exemple, les trois aéroports moscovites situés à proximité des explosions ont annoncé qu'ils n'avaient pas cessé leurs activités, qu'ils continueraient à opérer tout à fait normalement.
Félix Grasso à Moscou pour RTL.
RTL, Roland Garros 2023.
Et nous retrouvons notre dame tennis, Isabelle Langer. Isabelle, fin du joli parcours de Ferro.
Oui, elle a été éliminée par Mademoiselle Peterson, Fiona Ferro, 6-2, 6-0. La Suédoise l'a emportée en deux petits sets. En revanche, c'est brillamment passé pour Diane Parry qui l'a emportée 6-2, 6-3 face à l'Ukrainienne Kalinka. Kalinka qui a été tête de série quand même de ce tournoi. Giovanni Pencci-Péricard, je vais y arriver ce matin, c'est un peu compliqué, a perdu le premier set 7-6 au profit de l'Argentin Olivieri, mais il a fait le break dans le deuxième set. Le jeune Français, il mène 3-2, alors que Hugo Gaston démarre à l'instant même son match contre le Slovaque Molkan. Des nouvelles de Mademoiselle Ons Jabeur, la Tunisienne, finaliste de l'US Open, notamment l'an dernier. Elle mène 5-4, elle sert pour le premier set face à l'Italienne Bronzetti.
Merci beaucoup Isabelle, rendez-vous tout à l'heure avec vous à 13h.
Merci, à tout à l'heure.
Un violent orage de grêle hier soir en Ardèche.
Oui, la commune de Joannas, au sud-ouest d'Aubenas, est très touchée. De nombreux dégâts dans les vergers et potagers, mais aussi, Bertrand Frachon, sur certains bâtiments.
Oui Agnès, alors ce matin le soleil est revenu ici à Joannas, mais il reste par endroits de petits tas de grêlons. Hier il y en a eu jusqu'à 5 cm formant un véritable tapis au sol, tombé soudainement aux alentours de 17h. Un épisode qui a duré plus de 20 minutes, hachant littéralement le verger et les vignes d'André Mur.
Je suis vite allé vers mes pêchers quand j'ai vu ça, et bien j'ai dit c'est catastrophe, il y avait un tapis de feuilles par terre que vous pouvez voir, hein. Et des pêches, des fruits qui ont tombé, bien sûr, et même j'ai trouvé plusieurs oiseaux morts, hein, par terre.
Des oiseaux morts ?
Ouais, des petits oiseaux, ouais, pas des gros, ouais, mais enfin, s'il y a peut-être 5% de récolte de bonnes, et encore, parce qu'il faut que l'arbre se remette, il a perdu trop de feuilles, ça fait un stress, il faut que se remette, et tous les fruits sont impactés pratiquement.
Pour André Merle, ce sera une perte sèche pour sa récolte de pêche qui n'est pas assurée. L'orage de grêle très dense est resté localisé uniquement sur cette petite commune de 340 habitants. La faible taille des grêlons n'a heureusement pas fait de blessés ni trop de dégâts aux toitures.
Bertrand Frachon en Ardèche pour RTL. Et justement, je me tourne vers vous, Peggy Broche. Des orages comme celui-ci, comme hier en Ardèche, on va encore y avoir droit cette semaine ?
Alors là, c'était une situation particulière parce que c'est vrai que les orages étaient forts et la grêle était bien localisée. Mais malheureusement, voilà, on aura encore ce genre de situation jusqu'à la fin de la semaine. Ça va rester orageux sur toute la partie sud du pays en fin d'après-midi, avec le risque de forts orages localement, de la grêle également, comme cet après-midi. On a des orages encore qui commencent à se développer déjà sur les Pyrénées, qui vont gagner le Massif central et les Alpes. En revanche, la vallée du Rhône et le pourtour méditerranéen est épargnée. On garde du soleil. Ce sera orageux également cet après-midi sur l'ouest de la Corse. Partout ailleurs, sur toute la moitié nord, on garde encore un beau soleil, très beau soleil, mais toujours ce petit vent de nord-est qui rafraîchit un peu l'atmosphère, avec des températures qui sont en hausse. 18 au Havre, 21 cet après-midi à Lille, 24 à Paris et Biarritz, 25 à Nancy, 26 à Bastia comme à Nice, 27 degrés à Nantes, 28 à Toulouse, 29 à Nîmes et 30 degrés cet après-midi à Bordeaux.
Merci beaucoup, Peggy.
La fraude sociale avec Martial You. On en parle dans une seconde.
Pascal Pro, Agnès Bonfillon.
RTL Midi jusqu'à 13h.
Agnès Bonfillon, Pascal Pro,
RTL Midi.
La fraude sociale, comme la fraude fiscale, sont un poison dans une société, quelque chose qui mine la confiance. Si mon voisin triche, pourquoi est-ce que je paye, etc. Donc oui, ça va dans le bon sens.
Olivier Marleix, le président du groupe LR à l'Assemblée, était l'invité d'Amandine Bégaud ce matin sur RTL. Il réagissait aux annonces du gouvernement qui veut effectivement instaurer de nouvelles mesures pour lutter contre la fraude sociale. Bonjour Martial You.
Bonjour.
Pour bien comprendre, quand on parle fraude sociale, de quoi parle-t-on exactement ?
Je vais vous donner quelques exemples. Vous avez par exemple des allocations familiales qui sont perçues alors que l'enfant n'est plus à la maison, n'est plus à charge. Vous avez un travailleur non déclaré, donc pas de cotisation salariale payée aux URSSAF. Ça, c'est 800 millions par an quand même. Les patrons qui ne déclarent pas leurs employés. Un auto-entrepreneur, ça parfois, c'est un peu par méconnaissance. C'est type VTC ou livreur à vélo, plutôt jeune, il ne va pas forcément régler son assurance maladie, chômage, retraite. Bah là aussi, ça représente 800 millions d'euros. Et évidemment, c'est un manque à gagner pour le jour où il sera malade, où il sera à la charge de la société. Les retraités à l'étranger, on en a beaucoup parlé depuis ce matin, ce sont ceux qui sont décédés et à qui on continue à payer une pension parce qu'on ne le sait pas et c'est récupéré par quelqu'un d'autre. Il y a quelques mois, l'État justement a été regardé en Algérie sans... Enfin, 1000 plutôt, quasi centenaires. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont été qualifiés, c'est-à-dire plus de 85 ans. Et on s'est aperçu qu'il y en avait un sur trois qui continuait à toucher la retraite alors qu'évidemment, il était décédé. Donc l'État va contrôler désormais la situation de toutes les personnes de plus de 85 ans qui sont à l'étranger. Voilà, quelques idées.
Il y a 75 millions, paraît-il, de cartes vitales et on est 67 millions.
Non, alors ça c'est un chiffre.
Un faux chiffre.
C'est un chiffre qui a évolué, c'est-à-dire que en fait il y a eu un travail de l'État qui a été fait. Ce chiffre-là est donné par la Cour des comptes, mais il y a plusieurs années. En tout cas, si on en croit les services de Bercy, aujourd'hui vous avez moins de 1000 cartes non identifiées, pas de doublons comme on dit, c'est-à-dire le reste étaient en fait des erreurs liées à un étudiant par exemple qui change de statut, qui commence à travailler et
donc il y a autant de cartes vitales aujourd'hui.
C'est ce que dit Bercy, à un pouillème près.
Bon, et dans la solution, il y a jumelé carte vitale et carte d'identité. Est-ce que ça sera efficace ? Est-ce qu'on le sait déjà ?
En tout cas, c'est déjà testé dans certains pays.
En Belgique,
c'est le
notamment.
Cas en Belgique, c'est le cas en Suède ou au Portugal. Donc, ça existe et ça marche. L'intérêt, c'est quoi ? C'est d'avoir sur la même pièce une photo. Parce que vous avez quand même en France un tiers des cartes vitales qui n'ont pas la photo. Moi, ma carte vitale n'a pas de photo parce qu'à l'époque, on n'en avait pas. Et donc, du coup, l'intérêt...
La photo n'existait pas lorsque vous avez eu votre carte vitale.
J'ai dû... Première génération.
Parce que moi, je sors ma carte vitale à l'instant, j'ai quand même une photo.
Parce que vous l'avez faite refaire.
Non, elle a été émise en 2017.
Verte. Ah oui, mais moi, elle est toute verte, elle a une dizaine d'années, il n'y a pas la photo. Bon. Donc voilà, là, l'intérêt d'avoir la pièce d'identité et la carte vitale en même temps, c'est que vous avez la photo et que vous pouvez donc a priori savoir si la personne que vous avez en face de vous est bel et bien...
Mais pourquoi on ne fait pas biométrie ?
Alors ça, c'est parce que ça coûte très très cher, en fait. C'est une proposition...
Oui, mais ça coûtera peut-être moins cher que la fraude. Parce que moi, j'entends aussi de dire qu'on ne se donne pas vraiment les moyens, comme si on n'avait pas si on ne voulait pas vraiment attaquer la fraude sociale. J'entends cette petite musique. Pourquoi est-ce qu'on fait... Avec la biométrie,
on va savoir immédiatement.
Alors, il y a deux raisons qui font que, pour l'instant, c'est abandonné. C'est que, un, ça coûte 250 millions d'euros par an. Alors, ce matin, M. Marleix, puisque c'est une proposition des Républicains, hein, c'est une proposition du Sénat.
C'est 50 Marleix, milliards, la fraude sociale, paraît-il. Hein.
Non.
Certains disent, j'ai entendu 8, mais Charles Prats, par exemple, il dit 50
oui,
milliards.
Oui, alors... Je veux bien croire M. Prats, qui a été à un moment donné dans les officines ministérielles, mais en l'occurrence, le chiffre qui fait consensus, en tout cas officiel, c'est 6 à 8 milliards de la Cour des comptes. La biométrie, c'est quoi le problème? C'est, un, vous êtes obligé donc de demander à un médecin ou à un pharmacien de vérifier, et vous avez un acte de... des empreintes, vous avez des vérifications plus lourdes à faire lorsque vous êtes dans le cabinet médical et ils ne veulent pas rajouter du boulot, en gros, aux médecins ou aux pharmaciens. Première raison invoquée. Je ne dis pas que c'est forcément la bonne, mais bon. Et puis l'autre raison, c'est qu'effectivement, c'est un système très lourd, 250 millions par an. Et donc là, M. Marleix disait ce matin, ce serait vite récupéré si on fait zéro triche derrière. Bon. Je pense que la réalité de ce cumul carte d'identité, carte vitale sur la même pièce, c'est qu'au moins, si ça passe au niveau de la CNIL, donc au niveau des libertés individuelles, parce que la question, c'est la confidentialité des données de santé, est-ce que c'est le secret médical, tout simplement, et puis ensuite, à quel moment ça se déploie? Parce que vous savez que depuis en janvier dernier, on avait encore besoin de 100 à 120 jours pour obtenir une carte d'identité en mairie. Donc c'est pas non plus très facile.
Alors, d'un côté, il y a les fraudeurs, Martial, mais de l'autre, encore plus nombreux ceux qui ne réclament pas,
oui.
Ce à quoi ils ont droit.
C'est bien qu'on en prenne quelques secondes pour parler de ça, parce que moi, ça me tient à cœur, très très rapidement. Vous avez 3 à 7% de fraude aux dépenses de santé, vous avez 2,8% de fraude au RSA, mais ça, c'est le manque à gagner, c'est la fraude, mais, ce qui n'est pas énorme. Mais de l'autre côté, vous avez 30%, plus de 30% des aides sociales auxquelles les gens ont droit, mais c'est tellement compliqué qu'ils ne les réclament pas. Donc il ne faut pas oublier non plus, quand on dit le RSA, les gens vivent en assisté, vous avez quand même un tiers du RSA qui n'est pas versé à ceux qui y ont droit.
Et le chiffre de la fraude sociale est plus important que la fraude fiscale, on sait?
Non, il l'a donné...
Par définition, c'est difficile.
Oui, de toute façon, c'est compliqué. Fraude, logiquement, vu que vous avez la fraude fiscale est plus lourde.
La fraude fiscale est plus lourde.
Bah, vous avez bon. Toute la fraude aux impôts sur les sociétés qui quand même peut...
Merci Martial. On va parler de maillot de bain. Je ne sais pas si vous êtes concerné par ce sujet essentiel.
Vous êtes
Vous baignez nu.
Je ne me baigne pas nu. Je ne me baigne pas du tout. Moi, j'adore la mer, mais j'aime pas
le maillot de bain. Sur la plage, on a généralement un maillot de bain. C'est pas parce qu'on a un maillot de bain qu'on va à l'eau.
Oui, mais je suis plus Bermuda, tranquillement.
Ah, on en a parlé l'autre jour. On a rendu hommage à Albert Muda, qui est celui qui a évidemment inventé ce petit vêtement court avec notre ami Olivier Guénec. Albert Muda. Il est 12h50, à tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Agnès Bonfillon. RTL. Laissez-vous tenter midi.
Et la culture se met chaque jour à l'heure, si j'ose dire, à 12h52. Et aujourd'hui, nous allons parler de la vedette incontestée des plages de l'été, c'est le maillot de bain.
Et c'est avec Monique Younes. Bonjour Monique. Bonjour. Le maillot de bain, c'est toute une histoire en une infinité d'histoires. C'est ce que vous m'avez dit avant d'entrer dans le studio. Je vous ai remercié pour la simplicité de cette phrase. Une exposition lui est consacrée à Argenton-sur-Creuse, au musée de la chemiserie et de l'élégance masculine.
Oui, c'est le seul musée de mode enfance entièrement consacré aux hommes. Alors, je ne sais pas, quel type de maillot vous portez l'été, Pascal? Slip, short, boxer, bermuda, tout est à la mode cet été.
Je pense que ça doit être un short ou boxer, je pense.
D'accord. Donc, vous pouvez le garder ou bien en acheter d'autres.
Ou l'enlever.
Hein, ça dépend. En tout cas, il faut savoir, la forme du maillot de bain tel qu'on le connaît aujourd'hui date des années 30-40. Au XVIIe siècle, quand on a commencé à se baigner dans la mer, les hommes et les femmes se baignaient tout habillés. Les hommes avec un long caleçon et une longue chemise, les femmes avec une tenue un peu plus complexe. Il y avait le collant, un pantalon bouffant, une robe à manches longues serrées à la taille par une ceinture, des chaussures plates en toile et un bonnet, une charlotte pour protéger les cheveux. Ça faisait quand même un peu beaucoup. Alors, ce n'était pas encore pour le plaisir qu'on se baignait, mais pour se soigner, parce que les médecins prescrivaient de brèves immersions dans l'eau pour calmer les nerfs, réduire les fractures, diminuer l'asthme, effacer les maladies de peau, etc.
Et à partir de quand, alors, on s'est baigné pour le plaisir ?
À partir de 1820, c'est une mode lancée, comme toujours en ces temps-là, par l'aristocratie. C'est la duchesse de Berry, épouse du second fils de Charles X, qui a rendu la baignade à la mode. La duchesse adorait se baigner à Dieppe, devenue depuis la doyenne des stations balnéaires en France. La bourgeoisie a suivi, mais toujours dans des tenues décentes et donc très couvrante. Le costume de veuve va s'alléger à mesure que les bains de mer se démocratisent. Vers 1913, les femmes portent des maillots de corps identiques à ceux des hommes. La culotte arrive jusqu'à mi-cuisse et le haut est à manches courtes ou à bretelles. Écoutez Nathalie Gaillard, la directrice du musée de la chemiserie, vous expliquez pourquoi les bretelles.
Pourquoi le maillot de bain de femme ou d'homme en tricot a des bretelles? C'est parce que il faut faire tenir ce maillot qui n'a pas d'élastique. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où on va commencer à avoir une maille plus élastique, on va pouvoir, pour les hommes, avoir une culotte de bain qui sera ceinturée, qui n'aura plus besoin d'avoir des bretelles. Quand on compare ces maillots de bain aux maillots de bain d'aujourd'hui, ça devait être quand même très compliqué en sortant de l'eau de se mouvoir, parce que le maillot de bain est quand même très épais, très lourd. C'est aussi une matière qui garde l'eau, hein, le lainage.
Vous savez, les maillots de corps en laine pesaient 500 grammes à sec et plus de 3 kilos mouillés. Vous voyez quand même, c'était pas très évident de se baigner.
Alors l'évolution du maillot de bain est donc liée à l'évolution des mœurs de la société. On peut dire que plus la permissivité évolue, plus le maillot de bain se réduit jusqu'au string sur les plages parfois.
Jusqu'à l'enlever
string,
complètement.
Homme, hein, oui, alors oui, mais
donc,
string,
alors pour parler,
homme ou
vrai,
femme d'ailleurs.
C'est vrai. Alors pour parler des mœurs, jusqu'en 1925, le bronzage n'était pas à la mode. Et on ne voulait pas ressembler aux paysans qui travaillaient dans les champs et dont la peau était tannée par le soleil. Et c'est Coco Chanel et Jean Cocteau qui vont changer la donne en bronzant sur les plages de Deauville. Et plus le bronzage va devenir à la mode, plus les maillots vont rétrécir, s'échancrer par devant, par derrière, pour mieux laisser le soleil aller le corps. Les hommes vont connaître la joie des slips de bain moulants sexy et les femmes en 1932 vont enfin porter un maillot de bain deux pièces inventé par le couturier Jacques Haim. Vous savez, la culotte était enveloppante, elle enveloppait la taille jusqu'au nombril parce qu'il fallait couvrir le nombril considéré comme une zone érogène. En 1946, Louis Réard, entrepreneur, propriétaire de la boutique de boutonnerie Réard, va imaginer le bikini. Alors quand il le présente à la piscine Molitor à Paris, le journaliste des actualités filmées lâche ce commentaire.
Le comique Andrex en est tout scandalisé, mais pas la concurrence qui semble fort satisfaite. Nous venons de voir les humains faire les singes.
Les humains faire les singes. Le bikini ne va connaître le succès qu'en mai 1953, quand Brigitte Bardot le porte pour une séance photo sur les plages de Cannes, en plein festival du film. Aux États-Unis, c'est une chanson qui rend le bikini populaire en juin 1960. Elle est pendant plusieurs mois à la tête du hit parade et elle va contribuer au changement des mentalités américaines. La chanson est celle-ci. Chantée par un ado de 16 ans, Brian Island, en juin 60, elle est reprise 4 mois plus tard par Dalida, puis par Johnny Hallyday. Écoutez le medley.
Sur une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de quitter sa cabine. Elle tremblait de montrer au voisin. 1, 2, 3, elle tremblait de montrer quoi?
Son petit.
Ça, c'est formidable. Ça, c'était formidable. Bon, et alors, c'était la mode quand même. C'est plus ça pour les garçons. C'est plus short boxer que maillot de bain ou c'est.
Mais c'est tout, vous savez. Il y a
c'est
plus.
C'est Patrick Chirac, maillot de bain dans Camping.
Ben, et Jacques Chirac avait un maillot de bain très très moulant, comme Pompidou d'ailleurs. Mais on ne sait pas les autres comment ils. Si.
Et pour
si.
Les femmes, c'est plutôt une pièce ou deux pièces la mode?
C'est tout.
C'est tout.
C'est vraiment tout. Mais vous
tendance.
Savez, le bikini aura été une des plus grandes révolutions corporelles de l'histoire humaine. Et pour découvrir son histoire et celle du maillot de bain en général, le musée de la chemiserie et de l'élégance masculine à Argenton-sur-Creuse vous attend. L'exposition dure jusqu'en décembre. Elle a pour titre « Un dimanche au bord de l'eau, tenue correcte, exigée, même en été ».
Merci beaucoup Monique Younes.
Eh bien, on va pouvoir parler de tous ces sujets. Et puis ça nous fait du bien d'aborder des sujets un peu légers. Et je vous en remercie vraiment. Monique,
ça dépend quel siècle, hein, parce que je vous rappelle que le maillot de bain, c'était quand même.
Mais vous savez, c'est léger, mais ça dit beaucoup sur la société, vraiment.
Oui, quand je disais léger, c'était pas au sens du poids, bien sûr.
Je n'avais pas compris.
On se retrouve dans une seconde, chère Agnès. Et vous allez peut-être aller à la piscine cet après-midi, il fait
oui,
beau.
Oui, bien sûr, tout à fait. Oui, oui.
À tout de suite.
RTL Midi.